Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. La découverte récente de toutes petites galaxies très rouges à faible rayon, qui ont été appelées des Little Red Dots, LRD, a potentiellement révélé un nouveau type de population galactique dans l'univers primordial, caractérisé par de petits rayons effectifs, seulement 100 à 200 parsecs, mais de très grandes masses stellaires déjà, plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Leur source d'énergie demeure incertaine. Trou noir supermassif en accrétion, ou bien une intense formation d'étoiles. Une équipe d'astrophysiciens a analysé les conséquences dynamiques de ces densités stellaires extrêmes, et ils arrivent à la conclusion que les collisions d'étoiles doivent y être incontrôlées, menant à la naissance de trous noirs très massifs en très peu de temps. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Les premières observations du télescope spatial Webb ont révélé que le ciel infrarouge était recouvert de galaxies compactes et rouges, les LRD. Ces galaxies ont rapidement remis en question notre compréhension de l'univers lointain. Les LRD sont nombreuses, avec des densités numériques à un redshift de 5, c'est-à-dire 1,2 milliard d'années après le Big Bang, qui sont intermédiaires entre celles des noyaux galactiques actifs et celles des galaxies standards. Leur distribution en décalage vers le rouge présente un pic autour du redshift Z égale 5, et elles sont largement observées entre des redshifts de 4 et de 8. Sur une période donc d'environ 1 milliard d'années d'histoire cosmique, entre 0,6 et 1,6 milliard d'années après le Big Bang. Des études détectent actuellement des équivalents de LRD à des décalages vers le rouge plus faibles, c'est-à-dire inférieurs à 4, bien qu'à une densité numérique significativement plus faible, qui diminue de façon exponentielle avec la diminution du décalage vers le rouge. Les LRD sont très compactes, avec un rayon effectif moyen d'environ 150 parsecs et généralement inférieur à 300 parsecs. Outre les propriétés observées des LRD qui sont déjà assez particulières, leurs propriétés physiques qui sont déduites sont énigmatiques. Quelle est la source de leur lumière? C'est la grande question. Eh bien, on ignore actuellement si les LRD sont principalement alimentés par un trou noir supermassif en accrétion, d'une masse typique de l'ordre de 10 millions à 100 millions de masses solaires, ou bien par la formation d'étoiles dans des galaxies déjà massives, dont la masse stellaire est de l'ordre de 1 milliard à 100 milliards de masses solaires. Plusieurs études ont montré que leur distribution spectrale d'énergie peuvent être expliquées par diverses fractions d'AGN, qui est, on le rappelle, la fraction de lumière générée par le trou noir central à une longueur d'onde spécifique. La plupart des LRD présentent de larges raies d'émission. Et ce phénomène est généralement associé à la présence d'un trou noir supermassif central qui accélère le gaz à des vitesses élevées. Ces signatures sont largement utilisées, aussi bien localement que dans l'univers lointain, pour estimer la masse des trous noirs supermassifs. Mais plusieurs études ont également montré que cette même signature peut être produite par des galaxies extrêmement massives et compactes dans lesquelles la forte densité stellaire du cœur engendre naturellement des dispersions de vitesse extrêmes. Ça avait été montré par Bagan et collaborateurs, ainsi que par Loeb et collaborateurs en 2024 pour les deux. Une complication supplémentaire découle de l'absence de détection de rayons X provenant des LRD, même dans les analyses d'empilement profond. Et ça, c'est problématique pour l'hypothèse du trou noir, car la présence d'émissions de rayons X est généralement considérée comme une caractéristique de la présence d'un trou noir supermassif. Mais plusieurs modèles expliquent l'absence d'émissions de rayons X tout en préservant l'hypothèse du trou noir. Par exemple, Maiolino et collaborateurs en 2025 suggèrent qu'une couche très épaisse de matériaux absorbants avec un facteur de couverture important, masquerait l'émission de rayons X. Et puis Pacucci et Narayan, en 2024, ont proposé qu'une accrétion légèrement super-Eddington sur un trou noir supermassif en rotation lente créerait un spectre d'émission si mou dans le domaine des rayons X qu'il serait pratiquement indétectable par les observatoires de rayons X actuels. Alors l'interprétation fondée uniquement sur les étoiles est également remise en question. Et oui, parce qu'en particulier, la combinaison de deux facteurs soulève un problème majeur. Premièrement, la nécessité de masse stellaire de l'ordre de 1 milliard à 100 milliards de masses solaires pour reproduire la lumière observée. Et deuxièmement, leur compacité. Avec des rayons effectifs de l'ordre de 80 à 300 parsecs, les densités stellaires du cœur qui en résultent sont énormes, comme l'ont montré Bagen et collaborateurs, et Guya et collaborateurs en 2024. Plus précisément, cette dernière étude révèle que 35% d'un échantillon de 475 LRD présente des densités stellaires du cœur qui sont supérieures aux densités stellaires les plus élevées observées dans divers systèmes, atteignant des valeurs de l'ordre de 1 milliard de masses solaires par parsec cube. Imaginez, 1 milliard de soleils dans un cube de 3,2 années-lumière de côté. Énorme. Alors ces valeurs sont plus de 10 fois supérieures à la densité qui est requise pour que des collisions stellaires incontrôlées se produisent. Un processus d'emballement, c'est un processus au cours duquel la croissance de l'étoile centrale se produit sur une échelle de temps plus courte que sa durée de vie. En supposant les propriétés environnementales estimées pour les LRD, les chercheurs ont calculé le temps de collision stellaire moyen, qui se trouve être inférieur à 1 million d'années, ce qui garantit que les conditions d'emballement sont réunies. Les collisions stellaires incontrôlées, donc à emballement, sont proposées depuis longtemps maintenant comme un mécanisme de formation des trous noirs supermassifs. Ça remonte à Saunders en 1970, et puis il y a eu plein d'études dans les années 70, 80 et 90. Et les collisions stellaires dans les environnements denses autour des trous noirs supermassifs centraux, y compris d'ailleurs celui de la Voie lactée, ont été largement étudiées et ont été proposées comme un mécanisme efficace pour la formation d'étoiles massives. Alors à partir de ces constats et de ces questions ouvertes, Fabio Pacucci du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics et ses collaborateurs ont examiné le phénomène en adoptant l'interprétation « étoile seule », caractérisés par des densités stellaires extrêmes au cœur des galaxies LRD. Ils ont cherché à déterminer si le système stellaire résultant demeure stable ou bien si des collisions stellaires incontrôlées conduisent inévitablement à la formation d'un trou noir supermassif au cœur des LRD. Les astrophysiciens ont étudié les conséquences dynamiques de ces densités stellaires extrêmes à l'aide de trois approches complémentaires. D'abord, une analyse de Fokker-Planck, puis un modèle analytique et une simulation directe à ENCORE. Pacucci et ses collaborateurs montrent que dans les LRD typiques, donc avec une densité de 10 000 à 100 000 masses solaires par parsec cube, le temps de friction dynamique pour les étoiles de 10 masses solaires, dans les 0,1 parsecs centraux, il est très court, inférieur à 100 000 ans, ce qui permet une ségrégation de masse rapide et la formation d'un noyau dense. Et pour des densités stellaires plus élevées, de l'ordre de 10 millions de masses solaires par parsec cube, il trouve que des collisions stellaires incontrôlables commencent à se produire en 500 000 ans, ce qui produit des étoiles très massives avec une masse finale comprise entre 9 000 et 50 000 masses solaires en moins de 1 million d'années. Ensuite, une fois que l'approvisionnement en étoiles supermassives est épuisé, ces étoiles supermassives se contractent sur une échelle de temps de Kelvin-Helmholtz de 8000 ans et s'effondrent gravitationnellement, bien sûr, produisant un trou noir massif avec une masse identique à celle de l'étoile. Ce processus conduit ainsi à la formation de graines de trous noirs supermassifs de masse de l'ordre de 10 000 masses solaires, et ça jusqu'à un redshift de 4, donc 1,6 milliard d'années après le Big Bang. Ces conclusions de Pacucci et ses collaborateurs reposent sur les densités stellaires qui sont déduites pour les LRD. Les estimations de masse stellaire sont sujettes à des incertitudes liées à la modélisation spectrale et à la contamination par les noyaux actifs de galaxies. Bien que certaines études suggèrent que les masses stellaires sont généralement robustes à moins de 0,3 dex près, des erreurs plus importantes ne peuvent être exclues selon les chercheurs. Si les masses stellaires réelles sont beaucoup plus faibles, évidemment les densités correspondantes et la probabilité de collision incontrôlée seraient réduites. Les auteurs rappellent cependant que les densités stellaires extrêmes peuvent également expliquer d'autres caractéristiques qui sont observées sur les LRD. Par exemple, Loeb et Bagan, en 2024, ont proposé que les fortes dispersions de vitesse, qui sont supérieures à 1000 km par seconde, qui sont induites par de tels systèmes compacts, produiraient naturellement les raies larges qui sont observées dans de nombreux LRD, sans faire intervenir l'activité d'un noyau galactique actif. Ces fortes dispersions de vitesse sont également confirmées par l'analyse de Pacucci et collaborateurs, à des échelles spatiales de l'ordre de 100 parsecs. Dans cette perspective, les raies larges reflètent le potentiel gravitationnel du cœur stellaire dense. De plus, la formation de trous noirs massifs d'environ 10 000 masses solaires au centre des LRD pourrait également étayer les modèles selon lesquels la lumière observée est alimentée par des événements de rupture par effet de marée, des TDE. Bellovary a proposé récemment que les LRD pourraient s'expliquer par des systèmes stellaires denses abritant un trou noir de masse intermédiaire, produisant des TDE récurrents lors de l'accrétion d'étoiles. En effet, l'effondrement de l'étoile supermassive centrale en un trou noir massif préserve la majeure partie de la distribution stellaire environnante, qui reste extrêmement dense, parce que seule une petite fraction de la masse stellaire initiale est piégée dans le trou noir. Par conséquent, un important réservoir stellaire demeure disponible, entraînant donc des ruptures stellaires fréquentes et de ce fait une accrétion soutenue. Ce processus pourrait naturellement alimenter l'émission qui est observée dans certaines LRD tout en contribuant à la croissance rapide du trou noir massif. Alors la voie de collision stellaire incontrôlée qui est explorée dans cette étude est distincte de l'hypothèse largement étudiée du trou noir à effondrement direct. Une graine de trou noir supermassif formée dans une LRD prototypique à un redshift de 5 ne peut pas expliquer les quasars de masse supérieure à 1 milliard de masses solaires qui ont été découverts à une époque plus précoce, un redshift de 6 ou 7, et qui servent aujourd'hui à contraindre les modèles de germination des trous noirs. Les LRD à un redshift de 5 peuvent en revanche produire des germes massifs à des époques plus tardives, susceptibles d'ensemencer les trous noirs supermassifs de galaxies plus récentes. Mais comme l'ont souligné Pacucci et Loeb en 2025, et comme l'ont illustré Rinaldi et collaborateurs cette année également, le faible nombre de détections de LRD à un redshift supérieur à 7 pourrait être dû à un biais observationnel lié à leur faible luminosité de surface. En effet, Taylor et collaborateurs ont très récemment détecté une LRD présentant de larges raies d'émission à un redshift de, accrochez-vous bien, 9,288, ce qui fait 530 millions d'années après le Big Bang. Alors si la population de LRD s'étend effectivement à des décalages vers le rouge plus élevés, alors elle constituerait des candidates idéales pour amorcer la population de trous noirs supermassifs qui sont vus dans les quasars de masse supérieure à 1 milliard de masses solaires à un redshift de 6 à 7, donc dans les environs de 770 mégaannées après le Big Bang. Un avantage majeur des LRD par rapport au processus du collapse direct pour la formation des graines de trous noirs supermassifs réside dans leur fréquence bien supérieure aux prédictions optimistes concernant la densité numérique des effondrements directs de nuages de gaz très massifs. Les densités numériques typiques des LRD sont de l'ordre de 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 5 par centimégaparsec cube, tandis que les modèles de formation par collapse direct produisent des graines de trous noirs à des densités numériques de 10 moins 6 à 10 moins 8 par centimégaparsec cube. De fait, la formation de graines massives dans les LRD ne requiert pas de conditions particulières, telles qu'un gaz dépourvu de métaux ou un fort rayonnement de fond Lyman-Werner, comme c'est le cas pour le collapse direct. Alors Pacucci et ses collaborateurs arrivent à la conclusion que si les densités stellaires déduites dans les LRD sont confirmées, eh bien ces petits points rouges pourraient tout simplement représenter une pépinière répandue et très efficace pour les trous noirs supermassifs. L'article de Fabio Pacucci et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 994, daté du 13 novembre 2025. Il porte le titre « Les LRD sont des pouponnières de trous noirs massifs ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !